L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert, un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Petit rappel, pourquoi Jean-Baptiste est-il en prison ? Eh bien, parce qu'il s'est permis de dire au roi Hérode qu'il ne devait pas épouser la femme de son frère Philippe. La fameuse Hérodiade qui provoquera donc la décapitation de Jean le Baptiste. En cela, Jean le Baptiste, avec ce courage, rappelle qu'il est bien un prophète qui montre la vérité. Et ainsi se confirme, nous dit saint Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1, verset 19, « Ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car vous savez cette chose primordiale. Pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle. » Puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans la première lettre de saint Pierre au chapitre 1, verset 22, « En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. » Jean-Baptiste a eu le courage d'interpeller les grands de ce monde lorsque la vérité était en jeu. On ne transige pas avec elle, d'autant plus que nous savons depuis le Christ que la vérité est une personne. On constate aussi dans ce passage que Jean-Baptiste a encore ses propres disciples. C'est par eux qu'il va pouvoir dialoguer avec le Christ. En prison, il ne peut communiquer autrement, bien sûr, même si de son vivant, nous ne connaissons de rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus que lors du baptême de ce dernier. Question. Es-tu celui qui doit venir? Je pense à Jeanne d'Arc et à d'autres saints ou chrétiens emprisonnés. Et je ne peux m'empêcher de compatir à la souffrance de Jean-Baptiste. Et je pense que c'est votre cas, chers auditeurs. Jean-Baptiste doute. Il vit sans doute une nuit de la foi inhérente à cet état. Le prisonnier est souvent dans le noir, il n'a plus de relations sociales. Il est confronté à lui-même et à ses propres nuits. Même si Jean-Baptiste a été intransigeant vis-à-vis du roi Hérode, au point qu'il va le finir donc décapité, il doit affronter un ennemi plus puissant encore, son propre ego. Les nuits spirituelles sont des moyens de purification de la foi et de la vie. de même que le désert ou autres épreuves telles que la maladie ou la mort d'un proche, l'exil, etc. Purifier ici signifie que la vie de l'éprouvé n'est plus mélangée, broyée par toutes sortes de parasites. La cohérence d'une vie spirituelle exige toujours ces purifications. On ne peut pas toujours trouver un équilibre avec toutes les composantes de nos vies. Il faut parfois se séparer de ce qui nous empêche, voire de ceux qui nous empêchent d'être unifiés à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes. Jean-Baptiste est dans cette situation. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Nous ne sommes pas à sa place et nous ne saurons jamais vraiment pourquoi Jean a posé cette question à celui qui était plus grand que lui. Les commentateurs émettent différentes hypothèses. La plus crédible, à mon avis, est celle qui fait le lien avec l'évangile de dimanche dernier. Jean-Baptiste a sans doute vu dans le Christ le Messie glorieux, puissant et apocalyptique de son propre imaginaire. Il est plutôt rassurant, soit dit en passant, de voir un Jean humain, limité, pécheur finalement. Il a voulu interpréter pour lui la parole reçue pour nous, pour tous ceux qui venaient l'entendre et se faire baptiser au Jourdain et dans le désert. Non, décidément le disciple n'est pas au-dessus du maître. Jean a dit lui-même de ce dernier qu'il n'était pas digne de défaire la courroie de sa sandale, c'est-à-dire qu'il était encore moins digne d'un esclave, vis-à-vis donc de Jésus. Un dialogue s'instaure entre les deux. Jésus répond en essayant de rééquilibrer et ainsi renforcer la foi du Baptiste. Il sait qu'il souffre et Jésus répond à son besoin de certitude, mais sans se laisser entraîner dans le doute du Baptiste. En effet, ce dernier est dans le doute. Ce doute concerne la nature même du Messie. Jean-Baptiste pense « Les prophètes nous avaient annoncé un Messie qui nous libérerait, mais qu'en est-il vraiment? Je suis en prison. » Vas-tu libérer le peuple de Dieu de l'oppresseur qui nous enferme et qui m'enferme moi-même? La réponse de Jésus est comme toujours ferme et mesurée à la fois. Il aime Jean, d'autant plus qu'ils sont cousins. Il ne veut pas lui dire de manière abrupte que certes il est le Messie, Jean n'en a jamais douté, mais pas tout à fait comme Jean-Baptiste l'avait imaginé. Par sa réponse, Jésus veut sans doute aider le Baptiste à faire son propre chemin vers une plus juste foi. Une foi plus ajustée à la vérité qu'il sert et à laquelle il donne sa vie d'ailleurs. Jésus lui répond en quelque sorte « Oui, tu vois que j'ai tous les attributs du Messie, mais il y en a un que tu n'as peut-être pas tout à fait bien perçu. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et rappelle-toi que tu m'as toi-même désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Oui, c'est le paradoxe de la croix. Jésus nous sauve en effet de tous nos péchés et même de la mort éternelle. Mais en portant notre péché sur la croix et en mourant lui-même pour pouvoir ressusciter. Jean fait partie des pauvres dans sa prison qui peuvent bénéficier de ce salut offert en la personne de Jésus. Il peut entendre cette bonne nouvelle, s'il le veut bien, lui qui va vivre sa propre Pâque. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Jésus met en garde sans doute tous ceux qui auraient voulu penser à un autre Messie, comme Jean dans sa prison, de tentation. Jésus va libérer Jean de cette tentation par la vérité de sa propre vie. Libère-toi des fausses images du Messie et tu seras sauvé. Et non pas seulement libéré de ta prison, puisque de toute façon tu n'échapperas pas à la mort. Mais par ma mort, dit Jésus, tu échapperas à la seconde mort, celle de l'âme. La seconde partie de l'évangile de ce jour est plus tournée vers la figure de Jean qui éclaire l'avant. C'est Jésus lui-même qui donne sens à la mission du Baptiste. Il est bien plus qu'un prophète. Quel bel hommage, quel plus grand hommage pour celui qui, dit saint Augustin, était la voix alors que Jésus était la parole.